know it's the boy Dash all the way from Grenada and it's tuned in to C-Cut 90.3 FM.
Avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Dans le fond, là, tout ou pantoute, c'est comme le coup de buffer qu'il faut passer au printemps à la porte du camp parce qu'elle ferme plus, hostie. Bon, fait aujourd'hui, on profite du contexte du début du beau temps et de la tenue de l'événement Mes poils pour parler pilosité et normes de beauté.
J'ai parlé avec Camille Paré-Poirier, qui est ambassadrice pour l'événement Mes poils, événement qui nous invite pendant tout le mois de mai à donner une plus grande place aux poils, à les laisser pousser, puis à en parler.
Puis moi, j'ai rencontré Safia Nolin, dont le Québec au complet surveille constamment le linge et l'apparence, au lieu de porter attention à sa musique, qui a pourtant une immense valeur artistique.
Ici Alexandra Turgeon.
Et Laurie Perron.
Vous écoutez Tout ou Pantoute. Hey, on est assez énervé de parler de poils aujourd'hui. Est-ce qu'on présente tout de suite notre première invitée, Laurie?
Oui, oui, oui. Puis moi, je vais t'écouter la présenter en me flattant le poil de dessous de bras pour l'occasion.
J'ai rencontré Camille Paré-Poirier, qui est ambassadrice pour Mes poils depuis 2018. Si vous connaissez pas Mes poils, c'est un événement qui existe depuis 2017, puis qui se tient, comme son nom l'indique, pendant tout le mois de mai, qui nous invite à essayer de redonner ou de donner une place plus importante, puis à repenser à notre rapport à notre poil, puis à l'épilation. L'idée avec Mes poils, évidemment, c'est pas de changer la honte ou l'ostracisation de camp depuis le poil vers l'épilation, mais c'est d'ouvrir une discussion qui valorise les différentes opinions sans offrir de conclusion définitive. Peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire après le mois de mai, même si on recommence à se raser ou à s'épiler après le mois de mai, Mes poils nous invite à laisser de côté toute épilation pendant un mois. Pour voir qu'est-ce que ça nous fait, puis surtout à en parler, parce qu'en plus d'être considéré de façon péjorative, ben c'est tabou les poils, on n'en parle presque pas. Les poils féminins, évidemment. C'est pas un hasard si l'événement se tient au mois de mai et pas au mois de février d'ailleurs. Le mois de mai, c'est souvent le temps des premières camisoles, des premières robes, des premières shorts. C'est les premières fois que nos mollets et nos aisselles se trouvent dénudés devant d'autres personnes que nos colocs. C'est aussi le moment où avoir simplement caché notre poil sous nos vêtements, on peut être davantage tenté de recommencer à les épiler.
C'est ma fête. Fait que c'est pour ça que tout le monde veut montrer ses poils pour me faire une bonne fête.
T'aimerais-tu ça que tout le monde se laisse pousser le poil pour ta fête?
J'adorerais ça. Je le demande. À
bon ben, c'est noté.
Merci.
Donc, c'est pour ça, pour la fête à Laurie et pour le retour du beau temps, que Mes poils nous encouragent à faire cette expérience-là maintenant pour nous challenger à assumer ce geste-là dans son vrai contexte, finalement. Moi et Camille, on a parlé de la haine envers les poils, d'où ça vient, de pourquoi c'est important de parler de pilosité et de qu'est-ce que le confinement peut changer dans notre rapport à notre pilosité. Bonjour Camille Paré-Poirier, bienvenue à Tout ou Pantoute.
Bonjour, enchantée.
Camille, t'es ambassadrice pour Mes poils depuis 2018. T'es comédienne et poète et tu t'es impliquée dans la première année de Mes poils, pour la première année au cabaret où tu avais lu un poème que tu avais composé pour l'occasion. Puis depuis ce temps-là, tu t'impliques aussi comme bénévole et comme ambassadrice pour le mouvement. Mes poils, c'est un événement qui existe depuis 2017 puis qui se tient, comme son nom l'indique, pendant tout le mois de mai puis qui invite le monde, tout le monde, à essayer de redonner ou de donner une place ou à repenser son rapport aux poils et à l'épilation. Donc, j'ai le goût de commencer, Camille, par une question super large, mais d'où ça vient cette haine et ce dégoût qu'on a pour certains types de pilosité?
Oui, c'est une question comme je t'ai dit précédemment qui m'a taraudée, tu sais, toute la semaine, parce que on dirait que moi ça fait tellement de temps que je m'implique pour mes poils que j'ai même pu on peut essayer de l'expliquer, mais pour moi c'est tellement rendu absurde.
Oui.
Que faut comme essayer de le déconstruire, parce que c'est ça, tu sais, il y a certaines parties du corps où est-ce que c'est accepté, même valorisé d'avoir du poil. Si je prends par exemple, si je parle des femmes, donc par exemple les cheveux, les sourcils,
ouais,
ça passe, ça va, le duvet sur le corps s'il est blond, ça passe. Mais tu sais, faut se rappeler que bon, le corps est couvert de poils, les seuls endroits où on en a pas, c'est les paumes des mains, les plantes de pied et les paupières, je pense. Alors, je pense que c'est vraiment lié au passage à l'âge adulte, donc à la puberté. Alors, quand souvent la puberté va arriver en général un peu plus tôt chez les femmes que chez les hommes. Ouais. Et donc, c'est là qu'il va y avoir une apparition de poils sur le pubis, sous les aisselles, sur les jambes, en même temps que toutes sortes de changements, donc l'élargissement des hanches, l'apparition des seins, les premières règles. Et je pense que c'est beaucoup, donc, en lien avec l'éducation sexuelle qu'on a trop peu. Et souvent, ben, on va essayer de faire notre éducation nous-mêmes par souvent la pornographie. Puis maintenant, avec la multiplication des médias sociaux puis de l'accessibilité à ce type de contenu-là, on se retrouve à avoir des corps qui sont pour la plupart imberbes. Et en pornographie, ça a commencé, l'épilation intégrale, c'était pour mieux voir les parties génitales. C'était
Simplement.
Juste... Oui, c'est ça, c'était une question esthétique. Donc, on voulait mieux voir les parties parce que c'est ça le principe souvent de la pornographie.
Oui, oui.
Et là, ben, tout d'un coup, on se retrouve à s'éduquer en voyant des corps qui sont imberbes. Puis je pense que c'est une époque aussi où est-ce qu'on est beaucoup en recherche de repères, on veut s'accrocher, on veut appartenir à un groupe. Donc, il y a beaucoup de rites de passage qui s'opèrent vers l'âge adulte. Oui. Je pense qu'en général, les jeunes femmes... Puis les jeunes hommes aussi, ben on a hâte d'y accéder. Donc, c'est comme ça devient presque excitant. T'sais, moi, je me rappelle, j'étais excitée quand j'ai acheté mon premier rasoir parce que ça voulait dire que je devenais une femme.
Mais oui, c'est un rite de passage carrément.
Exactement. Exactement. Puis il y en a beaucoup. Puis ils sont intéressants à tous déconstruire. Tu sais, il y a la pilule. Ça, c'est une autre, c'est un autre c'est sujet tellement intéressant. Les premiers soutiens-gorge, le maquillage. Donc, je pense que ça s'inscrit dans toutes les choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est ça, devenir adulte. Puis on se retrouve dans un cycle là-dedans. Puis on le questionne pas. Puis là, à un moment donné, on vieillit, puis des fois, on se pose la question, puis on se dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai commencé, puis pourquoi j'ai jamais questionné ça avant?
Oui, on se rend compte qu'on a bien la misère à trouver une réponse logique ou rationnelle à la question pourquoi je fais ça, finalement, quand on regarde ça plus vieux, plus vieille.
Exactement.
Oui, puis pour vous, à mes poils, je me demandais, c'est quoi, puis pour toi personnellement aussi, Camille, c'est pourquoi c'est important, d'un point de vue féministe, de parler de ça, de poils et d'épilation, puis pourquoi c'est important de normaliser le fait que tout le monde en a du poil, finalement?
Moi, je trouve toujours que c'est... Je repense à moi, adolescente, puis je me dis, si j'avais eu des modèles comme ça, si j'avais eu accès à ce genre de contenu-là, je pense que je me serais sentie vraiment moins seule parce que je trouve que quand on est plus jeune, on veut toujours faire semblant qu'on sait comment ça fonctionne. Donc, on n'aime pas poser de questions. Ouais. moi, on dirait que dès qu'il y avait un nouveau mot qu'on apprenait ou des pratiques sexuelles ou quelque chose, on en parle très peu entre nous parce qu'on ne veut pas montrer notre ignorance. Donc, d'avoir des modèles, puis des modèles différents, surtout auxquels on peut s'identifier, puis des modèles qui nous ressemblent davantage, c'est super important. Puis, je pense que ce qui est super le fun avec mes poils, c'est que ça reste c'est un mouvement qui est politique, mais qui est très ludique. On se fait souvent reprocher, tu sais, que c'est un faux combat parce que ce serait niaiseux de parler de pilosité.
Comme si c'était pas assez important d'en parler.
Ben exactement, c'est juste des poils, pourquoi vous voulez, tu sais. Mais c'est pour ça que c'est important, c'est justement, nous aussi on trouve ça niaiseux, mais pourquoi ça vous fâche comme ça, qu'on veuille les laisser pousser? Pourquoi ça suscite ce genre de réaction-là si c'est si niaiseux que ça? Je trouve que sur un certain point de vue, c'est un des plus forts doubles standards parce que, tu sais, maintenant on parle, la journée sans maquillage, tu sais, j'ai jamais tiqué en voyant quelqu'un qui n'était pas maquillé, en voyant une femme la tête rasée, mais les poils sur les aisselles, sur le pubis, sur les jambes, dans le dos, pour certains, tu sais, sur les bras, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la virilité, à l'animal, à la force. Puis c'est des qualificatifs qu'on n'aime pas utiliser sur les femmes. Ouais. Qu'on n'aime pas apposer à la féminité qui est censée être douce, passive. Puis être imberbe, c'est comme je disais plus tôt, vu que ça arrive pendant la puberté, mais c'est vraiment de ramener la femme à un corps d'enfant. C'est vraiment... moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très perturbant quand on réalise que... c'est un corps imberbe, c'est ça. C'est les enfants, ils ont des sourcils, ils ont des cheveux, ils n'ont pas toujours des poils ailleurs. Puis là...
Faudrait rester de même,
Le moment où... où tu as ta puberté, puis que tu deviens donc mature sexuellement, puis que ton corps devient biologiquement prêt à procréer, c'est le moment où il faudrait que tu te donnes l'apparence d'un enfant. C'est quand même particulier quand on y pense.
Tellement, my God. Puis aussi, je pensais à toute la... Tu sais, tu disais que c'est considéré comme étant un combat qui n'est pas... qui n'est pas valide ou qui n'est pas légitime, mm-hmm. mais tu sais, c'est délégitimer toute la charge mentale que ça impose aux personnes qui doivent s'épiler aussi, là. Tu sais, on y pense, puis aussitôt qu'on est, non seulement qu'on n'est pas épilé, mais qu'on n'est pas parfaitement, tu sais, aussitôt qu'il y a une repousse, etc., faut y, ça coûte de l'argent, il faut y penser, faut le cacher si ça repousse, c'est énormément de place que ça prend dans le... dans l'esprit aussi.
Ah oui, le coût mental, tu sais, quand t'es des fois en relation de couple, ça peut des fois s'alléger un peu, mais en situation de, tu sais, de célibat puis de dater quelqu'un, fait qu'il y a déjà tellement d'aspects sur lesquels ça peut être stressant une première rencontre, mais là en plus, faut comme que tu sois à ton 100% là, de l'image de, qu'on se fait de la femme, tu sais, dans les pubs de Vénus. Puis ça, d'ailleurs, moi, quand j'ai réalisé que, tu sais, les pubs de Vénus, ils rasent des jambes déjà rasées, hein? On
n'est
tellement pas capable de voir le poil qu'on n'est même pas capable de le voir être rasé.
Ça n'a pas de bon sens.
Fait que c'est tellement, il est tellement invisibilisé que quand on le voit, c'est sûr qu'on fait le saut. T'sais, on ne peut pas en vouloir aux gens qui font le saut. C'est normal, mais justement, notre discours il est d'autant plus important. Puis, mais on parlait de coûts tantôt. C'est encore. Moi, je trouve que la société de consommation, comment elle fonctionne, c'est que c'est pas intéressant si on est satisfait de notre corps tel qu'il est. Ça nous pousse pas à consommer. Donc, quand on parle de taxes roses pour le maquillage, la lingerie, les produits en pharmacie, puis la douleur aussi, tu sais, c'est des mini-traumatismes hein, sur chaque poil est relié à un petit muscle puis un follicule, puis c'est très traumatisant pour la peau de se faire épiler, puis ça, il y a des personnes qui en souffrent beaucoup plus que d'autres.
Mais oui, c'est clair, my God. Ouais. Mais oui, ça fait mal. Puis en parlant de rite de passage, te faire dire quand t'es une jeune fille que ça va bientôt arriver, puis que tu vas devoir t'épiler, puis que ça va donc faire mal. Moi, je me rappelle, j'avais tellement peur, là. J'anticipais ça énormément. Puis, tu sais, là, on a parlé de pourquoi c'est important d'en parler, puis je suis vraiment d'accord, puis je trouve ça vraiment, vraiment important aussi qu'on en parle, puis qu'on normalise ça. Puis je me demandais. Plus spécifiquement, l'importance pour vous d'en faire un événement comme Mes Poils, c'est quoi? J'imagine que c'est, entre autres, pour le fait de, soit personnellement, pas seulement dans le regard des autres, mais dans notre propre regard, juste de voir de quoi notre corps peut avoir l'air avec du poil, puis de s'habituer à ça un peu.
Oui, exactement. Mais je pense que le fait de le faire pendant un mois comme un défi, qui est super, tu sais, c'est vraiment sans pression, là. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire le « moi, mes poils », mais c'est de se dire « OK, ben pourquoi j'essaierais pas pendant un mois? Je vois où je me rends, je vois comment je me sens par rapport à mon corps. » T'sais, moi, la première fois que j'ai fait le « mes poils », j'ai réalisé que, tu sais, j'avais jamais vu mes poils pleine longueur. Je savais même pas c'était quoi, de quoi mon corps avait l'air au naturel, tellement j'avais jamais expérimenter ça avant. Fait que c'est de se poser la question, d'en parler autour de soi, de s'informer, d'en parler au sein du couple, d'en parler entre amis. Fait que c'est comme une façon de mettre un peu le spotlight là-dessus pendant le mois de mai, qui est le mois en général où est-ce qu'on se déconfine à chaque année, tu sais. En général, où est-ce qu'on on va sortir de chez nous, on va commencer à mettre des culottes courtes, des jupes, des robes, puis donc on va... Fait que c'est comme une façon aussi, si on le faisait en plein été, ça pourrait être plus difficile à assumer, mais là, au printemps, on a vraiment le choix de porter ce qui nous plaît, puis de y aller une journée à la fois.
Oui, puis c'est à ce moment-là de l'année qu'on recommence à y penser plus activement aussi, à notre épilation ou à nos poils.
En général, oui, tout à fait.
Tu viens de parler de déconfinement. On ne fera pas semblant qu'on ne vit pas cette année un Mes Poils particulier, étant donné qu'on est justement en confinement à cause de la pandémie dans laquelle on vit en ce moment. Selon tes connaissances puis tes observations, quelle différence ça fait le confinement sur cet enjeu-là de la pilosité?
C'est intéressant. Mes Poils a toujours été très fort sur les médias sociaux puis en ligne, je trouve, parce qu'il permet vraiment un beau moyen de communication avec les gens qui, qui se sentent rejoints par ça, puis qui peuvent nous faire, nous envoyer des témoignages, nous envoyer des photos. Puis comme on est presque toutes basées à Montréal, c'est très pratique pour aller rejoindre d'autres, des gens à l'extérieur de la ville. Mm-hmm. Fait que je pense que pour ça, ça peut même avoir aidé sur certains aspects, surtout que cette année, ben là, les gens seuls chez eux, t'sais, ça nous pousse vraiment à nous demander pourquoi on le fait puis pour ben qui oui. on le fait. Ben parce oui. que moi, à chaque année, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent « Ben, tu sais, tu fais ce que tu veux, mais moi, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mm-hmm. » Et je pense qu'il y en a pour qui c'est vrai, mais ça nous pose quand même à amener la réflexion plus loin puis à se demander « Est-ce que je le fais vraiment pour moi quand je suis toute seule chez moi puis que personne me regarde? » Est-ce que je le fais vraiment pour moi, prendre ce temps-là à tous les jours ou à toutes les semaines pour martyriser mon pauvre corps, ma pauvre peau? Mais il y en a pour qui, tu sais, ça peut être des questions de confort et tout ça, tu sais, ça se peut vraiment, là. Mais...
C'est vrai que ça donne une occasion de réfléchir. Si je ne sors pas de chez nous, s'il n'y a personne d'autre que moi qui le fait, est-ce que je le fais quand même? Puis si oui... tu sais, pourquoi? Parce que sinon, je me trouve pas belle ou parce que sinon, je suis pas confortable ou, tu sais...
Ouais, parce que ça peut être tellement excitant comme processus, là. Moi, vraiment, j'étais, là, tu sais, une petite fille. C'était comme si je faisais... J'avais l'impression de faire quelque chose d'illégal, tu sais, le moment, le fun, là, où tu te dis, mon Dieu, j'ai pas le droit de faire ça, c'est donc bien excitant. Ouais.
Check moi bien avoir du poil pendant tout le mois de mai.
Checkez-nous bien. Ouais, mais c'est vraiment le fun. Puis moi, je trouve que ça me permet aussi, après ça, d'avoir un beau dialogue avec... Tu sais, moi, je suis célibataire, donc avec certaines personnes que tu rencontres, puis il y en a qui l'abordent, il y en a qui l'abordent pas, mais tu vois qu'ils remarquent. Il y en a qui s'en foutent complètement, puis ça fait du bien, tu sais. C'est comme...
J'avais un ami qui me disait que c'était un filtre un peu... un moment donné, quand j'avais de la difficulté aussi à assumer mon poil, là, quand j'étais célibataire, qui me disait « ça peut être un filtre, là. Si la personne n'est pas capable d'accepter que tu as du poil sur ses jambes, ben c'est peut-être pas la personne avec qui tu as le goût de passer du temps. »
J'osais pas le dire comme ça, mais oui, tout à fait. Oui, vraiment, parce que ça, c'est un bon baromètre à...
respecter les décisions de l'autre.
Ouais.
Camille, merci encore d'avoir pris ton temps pour discuter avec nous.
Merci beaucoup à toi, je vous souhaite une belle journée.
Merci encore à Camille Paré-Poirier d'avoir parlé de poils et de mes poils avec moi. Laurie, qu'est-ce que tu as pensé de la discussion? À quoi ça t'a fait penser?
Ah, ça m'a fait penser à 60 000 affaires, mais c'est un de mes sujets préférés, les poils, parce que j'adore les poils, parce que je trouve ça doux. Fait que c'est un des sujets que j'aime vraiment beaucoup. Mais toute mon adolescence... moi, quand j'étais ado, toute mon adolescence, je m'épilais à la cire, soit chez nous ouais, ça fait mal en plus. Hein. Ouais, je le faisais soit chez nous, avec ma mère, ou chez notre esthéticienne familiale qui s'appelle Annie, qui est la cousine de ma mère. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût de faire un genre de hommage à Annie. Oh. Je vais juste mettre quelque chose au clair, là. Annie, je l'aime vraiment beaucoup. C'est il n'y a aucun sarcasme. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai envie de parler d'elle parce qu'elle représente pour moi un exemple de la pression qu'on ressent de l'extérieur, mais qu'on ressent comme si elle venait de l'extérieur, mais qui vient parfois de nous autres mêmes, tu sais. Puis de nos préjugés sur les préjugés des gens. Si cette phrase-là veut dire quelque chose, pas sûr.
J'attends que tu me donnes une explication plus concrète.
OK, c'est bon. Je suis prête pour l'explication. Mais moi, je suis souvent allée voir Annie avec une repousse de poils de genre plusieurs centimètres aux jambes puis aux aisselles pour me faire épiler. Puis c'était vraiment la honte. Pour moi, là, ça me gênait qu'une esthéticienne puisse me voir comme ça. Mais elle a jamais genre posé l'ombre d'un jugement. Puis encore aujourd'hui, que je porte fièrement mes poils sur l'entièreté de mon corps, j'avisite de temps en temps pour y présenter mes enfants puis tout ça. Puis tout ce que je reçois, c'est vraiment genre le rayonnement puis l'énergie qu'elle a toujours dégagée. Tu sais, elle m'épilait parce que moi, je lui demandais de m'épiler. C'est sûr qu'elle voit mon poil, puis c'est quelque chose qu'elle remarque parce que c'est son travail. Puis probablement qu'elle trouve ça bien laide, comme la plupart du monde qui me regarde passer quand je retourne à Saint-Fé, mais elle me l'a jamais fait sentir, tu sais. Puis c'est sa job d'être fine, là, vous me direz sûrement. Mais oui, vous avez raison, mais elle jase en masse, là, Annie. De tout, de rien, de tout le monde qu'on a en commun. Elle aurait eu en masse l'occasion de me glisser un commentaire, mais elle l'a jamais fait. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous parler d'elle parce que moi, j'ai tellement longtemps eu peur que des madames comme elle me jugent allègrement, genre, ou me dénigrent. Puis c'est pas toujours le cas. Puis je sais pas pourquoi, mais depuis qu'on a commencé à travailler sur cet épisode-là, ben je pense à elle. Fait que voilà, je voulais vous le dire. Mais faut quand même pas oublier non plus que la plupart du monde se gêne pas pour passer des commentaires, là. À ce monde-là, je dirais « faites donc comme Annie ». Parce que c'est clair que je me serais sauvée de bien des situations inconfortables si j'avais accepté le cadeau de fête de ma mère quand elle m'avait offert de me payer l'épilation laser. Sauf que moi, personnellement, je trouve que j'ai tellement de privilèges qui transparaissent dans mon apparence physique que j'ai un peu la responsabilité de participer à cette banalisation-là du poil, tu sais.
Hein, j'avais jamais pensé à ça de même.
Ah ouais? Oh. Ouais, mais moi, ben je trouve que si, mettons, moi, je le fais pas, alors que c'est quand même plus facile pour moi que pour d'autres qui se font, mettons, déjà juger à cause de leur handicap, leur couleur de peau, leur poids ou d'autres oppressions visibles, mettons, ben personne n'aura jamais la paix, là. Ça sera jamais facile, ni pour moi puis les personnes avec mille privilèges, ni pour celles qui en ont moins.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, j'aimerais vraiment ça que mes enfants grandissent dans un monde où on a des sujets genre plus fondamentaux à discuter en société que le poil sur les cuisses de Madame Vézina ou je sais pas trop.
Ouais, tabarnak, que juste l'apparence physique des autres personnes en général.
Exact, oui.
Mais c'est intéressant que tu parles de ton adolescence parce que c'est sûr que, puis on en a parlé avec Camille, là, mais comme parler de poils puis d'épilation, on dirait qu'à partir du moment qu'on commence à se poser la question un peu de pourquoi on fait ça, de si on est confortable avec notre poil, on dirait qu'on vient qu'à repenser au moment où on a commencé à en avoir, donc quand on était ado. Puis, ouais, ça me faisait penser à tout le, je sais pas, tout le build-up quand on est, quand, à partir, moi, j'ai commencé à avoir du poids sur les jambes, là, genre, 4e, 5e année du primaire, là, puis je commençais à m'en faire parler de, tu sais, éventuellement, il va falloir que tu t'en occupes. Ouais. Voici les différentes options. T'as le rasoir, mais là, ils vont repousser bien, bien dru. Tu vas perdre le contrôle. T'as la cire, mais ça fait bien mal. Mais tu sais, c'est ça. Ça n'a jamais été aussi tu peux rien que le garder. Tu sais, c'était juste quelle option tu choisis parmi toutes ces options de merde.
Ouais.
Puis, en tout cas, je trouve ça capoté à quel point que ça nous est un peu rentré dans ta... Puis pas par malice, comme un peu par gentillesse, puis par... c'est vraiment comme un... C'est l'image de rite de passage, là. C'est vraiment comme, tu sais, entre femmes sur le patio, on se parle de ça, puis, tu sais, on initie la jeune fille à cette tradition dans laquelle elle va rentrer bientôt, là. Je trouve ça quand même... Ouais.
C'est vraiment un partage de connaissances, genre une tradition orale de se jaser de ça entre femmes, mettons.
Mais... Oui, ce qui pourrait être positif, mais comme par rapport à d'autres affaires, peut-être que ça.
Mm-hmm.
Oui. Puis, c'est sûr, moi, tu sais, en plus, cette espèce de build-up de peur de la douleur, mettons. J'avais déjà comme la peur que, on dirait que je sentais que j'allais perdre le contrôle par rapport à mon épilation puis à mon poids. Là, je me disais, c'est sûr que je n'ai plus que les autres. C'est sûr que même quand je vais m'épiler, ça ne sera jamais parfait. Puis effectivement, puis je veux dire, honnêtement, comme je peux pas concevoir que tu peux t'épiler parfaitement puis avoir une peau comme d'un pub. Tu sais, ta peau, elle devient pas belle quand tu t'épiles souvent. En tout cas, je veux pas... Tu sais, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui s'épilent puis que leur peau est super belle, je suis vraiment impressionnée, mais comme je comprends pas comment, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté de m'épiler, c'est parce que je me suis rendu compte que de toute façon, j'étais inconfortable puis gênée par rapport à de quoi ma peau avait l'air aux endroits où je m'épilais, parce qu'elle était pas comme dans les pubs, tu sais. Tu sais, ça faisait des boutons, des points incarnés, etc. Fait que je me suis dit, tu sais, tant qu'à être gênée, autant... pas avoir mal en plus, je sais pas. Ça fait partie de ma réflexion.
Ouais, vraiment. Puis il y a vraiment beaucoup là, de douleurs qui sont associées à ce passage-là à l'âge adulte, mettons. T'sais. C'est sûr qu'il y a l'épilation puis tout ça, mais je me rappelle que moi, c'était vraiment terrorisant pour moi. T'sais, j'avais à moitié out, comme idéologiquement, mais physiquement, ça me terrorisait, t'sais, l'idée même... des premières relations sexuelles où on est supposé saigner beaucoup à cause qu'on brise notre hymen. On y reviendra un jour là, dans un autre épisode, mais comme s'il y a des jeunes aussi terrorisés que moi à ce sujet-là, sachez que c'est pas vrai, c'est pas un passage obligé qu'on se déchire forcément de l'intérieur, là, comme, en tout cas, peu importe. On en reparlera, mais moi, ça me terrorisait.
Autre build-up fucking effrayant aussi, là, t'as raison.
Ben oui, puis comme suite à ces premières relations sexuelles-là, ben là, il y a la possibilité d'une grossesse, puis là, ça, c'est vraiment honteux si ça t'arrive, c'est la honte généralisée de ton école à cause d'un doux phénomène qu'on appelle aujourd'hui le « slut-shaming ». Puis après, si jamais, là, il y a éventuellement l'accouchement, tu sais, comme toutes les étapes dont on se faisait parler étaient des affaires super douloureuses, tu sais. Puis je blâme pas personne qui m'a enseigné ces choses-là ou qui m'en a parlé. Je le comprends parce que c'est vrai, OK, que c'est des affaires intenses à vivre puis douloureuses, mais comme, on peut-tu pas rajouter la question du poil parce que ça change rien?
Oui. Mais c'est, ouais, ça. C'est juste une couche de plus, c'est vrai.
Oui, puis c'est une couche de plus que moi, j'avais même pas vu venir tant que ça parce que ben, les modèles féminins autour de moi s'épilaient, alors les poils ne faisaient pas partie d'un passage à l'âge adulte.
Tu savais pas que t'allais en avoir.
Ben, je le savais, mais c'est pas quelque chose qui distinguait les enfants des adultes ou qui me rapprochait de l'enfant si je les enlevais, tu sais. Comme ma grand-mère en avait pas, ma mère en avait pas, les mères de mes amis non plus.
Ouais, ouais, c'est pas comme des seins que tu te dis à un moment donné, je vais avoir ça.
Non, c'est ça.
Ouais, 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 je comprends. Ça t'a-tu fait que comme t'étais surpris, gênée de n'avoir ou tu
non,
comprenais
pas
pourquoi
vraiment.
Tu n'avais. Okay.
Non, pas vraiment. T'sais, ma mère, elle se cachait pas pour s'épiler, mettons, mais elle avait trois enfants, là. Je comprends aujourd'hui pourquoi, mais elle s'occupait d'elle-même juste une fois que tout le monde était couché. Fait que j'avais semi-conscience qu'on les enlevait. T'sais, c'est plus une fois que j'ai eu des poils que là, on a passé du temps ensemble puis que j'ai compris que, bon, OK, on pouvait s'épiler assis, assis sur le comptoir de la cuisine en dessous du fluorescent, mais. Mais c'est ça, j'avais juste, tu sais, je savais qu'on pouvait avoir des poils, mais je voyais vraiment pas ça comme un moment du passage vers l'âge adulte tant que
ouais. Non, mais c'est pas c'est pas une partie du passage à l'âge adulte qui est positif non plus,
ben qui est pas vu comme positive en tout cas. Ça devrait juste être neutre, tu sais.
Mais oui comme toutes les autres évolutions de notre corps. Dans cette période vraiment intense.
Si t'aimes pas ça, tu l'enlèves. Si t'aimes ça, tu le gardes. Puis ça s'arrête là, comme tout. Je sais pas. Mon humble opinion.
Ça m'amène à mon autre point que j'avais réfléchi par rapport à ma conversation avec Camille puis à ma réflexion constante par rapport au poil, c'est que, justement, tu sais, ça doit être... Je trouve que... Puis c'est intéressant, je trouve, tout le travail que mes poils fait par rapport à ça, là, tu sais, de pas être... Tu sais, si tu t'épiles, t'es une mauvaise féministe, etc., tu sais, on est vraiment pas là-dedans, on est vraiment juste dans... Essaye les dons, tu vas voir comment ça te fait filer, puis si ça te fait pas filer si pire que ça, ben peut-être continue, ou si ça te fait filer vraiment pas bien, ben arrête, c'est pas grave, mais au moins tu le sauras, tu sais, comment ça te fait filer, puis de quoi t'as de l'air avec des poils aussi. Bref, je trouve que c'est vraiment important de le faire comme pour soi, puis pas par pression extérieure. J'ai déjà été dans une relation où ce que mon ex, il me disait que c'était dommage niaiseux que je m'épile, puis que ça ne fitait pas avec mes valeurs, puis que je ne devrais pas le faire. Fait que là, j'ai arrêté de m'épiler parce que je trouvais qu'il avait raison, mais comme je ne l'ai pas fait pour moi, puis aussitôt qu'on s'est séparés, ben, j'ai recommencé à m'épiler parce que c'est sûr, je n'avais pas fait le processus, puis là, j'ai recommencé à le faire pour les raisons que j'ai nommées tantôt, c'est juste moins de trop, puis je suis tannée. Mais aussi, c'est ça, je suis en couple maintenant, puis je pense que quand on est en situation de célibat, je ne veux pas dire que c'est... je sais pas, je trouve que ça rajoute une couche un petit peu de struggle mental parce qu'on ne connaît pas nécessairement les personnes, puis on ne connaît pas nécessairement comment ils vont réagir à ça, puis on n'a pas nécessairement le goût de parler de ça non plus, comme tu disais tantôt.
Ouais.
Fait que c'est ça. Je trouve que c'est ça. C'est correct de le faire tranquillement puis de commencer à s'habituer aussi, là, puis de, tu sais, de décider, mettons, que telle partie du corps, ça nous dérange pas d'avoir des poils dessus, mais telle autre, là, non, tu sais, on n'est pas prête ou ça ne tente pas. C'est full correct.
Ben oui.
Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve que la première étape, c'est d'arrêter de trouver ça laid nous-mêmes avant de l'assumer dehors devant d'autres personnes. Parce que c'est ça, les autres personnes, ils s'en foutent relativement, mais si nous, on n'est pas bien avec ça, c'est nous qui sera pas bien. Puis c'est ça. Moi, il y a encore des jours où je trouve que ça fit pas avec mon linge d'avoir du poil parce que. Oui?
Eh oui, full. Je m'étais même pris des notes sur ce point-là.
Ouais, je disais ça à une amie hier, puis elle trouvait ça drôle, mais comme c'est vrai, tu sais, à partir du moment. Ça dépend des souliers, genre, puis ça dépend si je mets une robe ou une jupe. Des fois, je suis comme, ah oh, là, non. Mais oui, tu sais, finalement, mais c'est un processus qui va me prendre du temps, puis c'est pas grave.
Ben oui, puis même au niveau du confort, tu sais, moi, j'aime full ça mettre des jupes, puis j'adore porter des collants parce que ça, je peux décider de la couleur de mes jambes en même temps d'être en dessous d'une jupe. En tout cas, j'adore ça. Mais là, des fois, tu vois les poils à travers, puis là, moi, ça nuit à mon idée de color block, mettons. ou ben évidemment comme des poils longs, comme moi j'ai les poils assez longs puis assez fournis là, aux jambes, fait que des poils longs dans des collants serrés toute la journée, ça pique en crisse.
Ouais, c'est pas confortable.
Mm. C'est ça, fait que je comprends ce que tu dis, je comprends ton struggle.
Je suis contente. T'avais un autre point, je pense, par rapport à la pression sociale puis à ton milieu professionnel particulier.
Ouais, full. Ben en fait, c'est ça, c'est que moi, je me suis rendu compte, par rapport à la question de est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour les autres, moi, c'est sûr que quand je m'épilais jeune, je le faisais par rapport au regard des autres. C'était pas une décision personnelle. La preuve, c'est que je m'en crissais assez pour tout le temps arriver avec du poil super long chez l'esthéticienne parce que moi, personnellement, je l'enlevais pas, mais là, bon, il y avait une sortie familiale, quelque chose, fait que là... Bon, j'allais me faire épiler, mais bon, je le faisais pour le regard des autres, ça, c'est sûr. Puis, il y a 4-5 ans, non même, plus que ça, 7-8 ans, je sais pas, je pense que ça fait 10 ans que je porte mon poil long, à peu près. Mais il y a 4-5 ans, ouais, ben, ouais, je dirais ça, post-secondaire, mon cégep, j'ai eu le poil long, puis pas mal ça. Mais c'était on and off au début, puis là, depuis, mettons, 7-8 ans, c'est vraiment, je laisse foisonner le tout jusqu'à temps que ça me gosse, et c'est très rare. C'est plus comme les poils pubiens dont on parle jamais à un moment donné. Ils sont trop longs. Je l'ai parlé sur un groupe de sexualité féministe. Puis là, j'ai le goût de le dire en nombre parce que c'est quelque chose dont on parle jamais. Mais à un moment donné, des fois, ça colle. Puis là, c'est pas le fun. C'est ça. Là, des fois, j'ai mes règles. Puis là, ça colle dans le poil. Fait que là, rendu là, je le coupe. Hey, c'est... Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières à ne pas
traverser. Non, mais c'est vrai qu'il y a des poils que c'est correct de parler. Puis il y en a que c'est pas correct, comme ça gosse.
Ouais, puis c'est con.
Ça existe, là.
J'aurais peut-être dû mettre un trigger warning là-dessus, mais tous les poils peuvent coller, là. Les poils de barbe aussi peuvent coller avec de la sauce à spag, tu sais, comme... Puis on n'en parle pas non plus, hein? On n'en parle pas. Mais bref, hey, c'est pas là-dessus que je m'enlignais. Mais, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Fait qu'il y a 4-5 ans, c'était l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui a 10 ans de plus que moi. Puis je l'ai toujours vraiment beaucoup admirée, puis ses amis aussi. Mais j'étais justement comme un peu inconfortable par rapport à mon poil face à eux autres, comment j'allais être perçue alors que je les admirais full. Puis j'avais fini par décider de juste l'enlever. De toute façon, ça faisait comme déjà plusieurs années que je m'étais pas rasée. Puis je me disais, ah ben je vais voir comment ça file. Exactement le processus inverse de mes poils. Genre, tu sais, laisse-les pousser, vois comment ça file. Moi, c'était le contraire. Je vais les enlever, je vais voir. Puis je m'étais sentie vraiment tout nue finalement, pour votre information. Mais peu importe, j'avais décidé de les enlever. Puis après... Je me suis rendu compte que dans ma communauté à moi, parce que moi, je gravite beaucoup dans la scène folk sale, ou surtout dans ce temps-là, puis dans ma communauté d'amis, c'est quand même un statement assez fort, la pilosité, peu importe le genre. Puis le fait d'avoir décidé de me raser m'a fait sentir ultra vulnérable pendant genre plusieurs semaines, même avec mes amis proches, parce que je me sentais genre faible d'avoir cédé, tu sais, alors que j'avais vraiment le droit de le faire si je voulais, tu sais. Fait que c'est... Mais ça revient un peu à ton point aussi que tu disais, tu sais, qu'avec ton ex, ben là, t'avais décidé de te raser, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme... C'est semi une décision, puis c'est quand même le jugement des autres, même si c'est des personnes que tu connais de très près.
Mais non, mais la pression sociale, elle existe des deux bords, c'est sûr, puis...
Ouais.
À pas d'affaire, là. Ouais.
Non, c'est ça. Fait que c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Puis, ouais, puis je me disais aussi que par rapport à la musique, puis l'apparence, puis comment aussitôt que tu fais de l'art, tu es considéré pas juste pour ce que tu crées, mais pour ce que tu dégages, puis ce de quoi tu as l'air. Ben, ça m'amène à vous parler de Safia Nolin, que j'ai rencontrée via les interwebs, évidemment, pour une entrevue qu'on vous présente à l'instant. Bienvenue à toutes et à tous dans le segment artistique de Tout ou Pantoute. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui a fait consensus dans l'équipe de Tout ou Pantoute parce qu'elle nous fait triper autant artistiquement que sur le plan social. Safia Nolin a remporté le prix Révélation de l'année à la Disque en 2016, puis les médias dérougissent plus depuis, mais souvent pour des raisons de marde. Ça nous insulte, mais sûrement pas autant qu'elle, alors on la rejoint via la magie de la technologie moderne, confinement oblige. Vous pardonnerez donc mon chat qui ronronne dans le micro de temps en temps, il est couché juste à la table à côté de moi. Allô Safia!
Bonjour!
Ça va toujours bien?
Oui!
Je dis toujours bien parce qu'on vient de faire un début d'entrevue que j'ai pas enregistré, gang, c'est ma faute.
Ça arrive.
Donc encore merci d'avoir accepté mon invitation!
Ben là, ça me fait ultra plaisir!
On trouvait vraiment que tu étais l'invitée parfaite pour un épisode sur l'image corporelle puis les standards de beauté, parce que depuis la disque en 2016, tout le monde vire fou sur les réseaux sociaux puis dans les médias, puis ils se sentent obsédés par ton apparence physique puis ils donnent le droit de commenter tout ce que tu fais, toutes tes photos, comme s'il n'y avait personne derrière. Encore récemment, là, avec la photo sur Facebook dans le cadre de mes poils, tout le monde s'en donne à cœur joie.
Oui.
Est-ce que dans la vraie vie, le monde se retient un peu? T'as-tu la paix, des fois?
Ben oui. Puis le pire, c'est que c'est pas que je le demande, là, mais je rêve de ce jour où est-ce que quelqu'un va oser me dire de quoi en face. Parce qu'au début de ma carrière, quand ça a commencé, ces affaires-là, tout le monde était comme « Réponds pas, tu vas te mettre dans le marde, réponds pas. » Mais moi, genre, dans la vraie vie, tu me fais pas chier. Ben, j'oserais dire, man, je m'engueule avec des hommes dans la rue souvent. Surtout en France, en ce moment, genre, puis je suis pas gênée. Fait que je me suis souvent sentie que j'aimerais ça que le monde m'insulte dans la rue plus que sur Internet, parce que sur Internet, les gens, ils ont tendance à me dire « Mais tiens, tu l'as cherché, puis fais pas comme eux, rabaisse-toi pas à leur niveau. » C'est dur, là, c'est vraiment fucké, ça. C'est une autre affaire que je parle jamais avec les gens, mais t'essaieras, toi, de te faire insulter par 230 personnes en une journée, puis de rien dire. C'est vraiment tough, là. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est genre de les démolir, là. Tu sais, je veux dire, de me défendre, calice. Puis, genre, si quelqu'un me le disait dans la vraie vie, mais j'aurais toutes les raisons du monde de les envoyer chier. Fait... Mais ça arrive pas. Il y a une crise de différence entre insulter quelqu'un sur Internet puis insulter quelqu'un dans la vraie vie au niveau de ce que ça prend comme guts puis de ce que ça prend comme assurance pour le faire, tu sais. Fait que non, ça m'est jamais arrivé.
Au début, je me disais, ah, tant mieux si ça t'arrive pas, mais finalement, je te souhaite que ça arrive puis que tu puisses les remettre à leur place sans que ce soit écrit partout, indélébilement.
Au moins, genre, une fois, c'est juste pour m'apaiser.
C'est clair. Puis il y a beaucoup de monde qui te back aussi, là, puis qui sont derrière toi. Ça doit être dur de sentir vraiment le soutien aussi fort que les critiques. Toi, comment tu vis ça?
J'aime tellement ça que les gens me soutiennent. Genre, ça me fait un bien de fou, parce que si les gens me soutenaient pas, je pense que je réalise pas à quel point est-ce que ce serait plus dur. Quand il y a eu l'affaire de mes poils, genre, les commentaires sur ma photo sur Facebook, c'était presque 95% de la merde. Je l'ai vu, la différence. Aïe, OK, là, je me sens vraiment comme si j'étais dans le wrong. Là. Je me sentais tout seul dans mon combat, tu sais, mais il y avait tellement de monde qui répondait aux commentaires méchants que c'était comme une what. C'est vraiment des images de merde, mais si, mettons...
J'adore les métaphores.
Si tu te pètes le genou avec un protège-genou toute ta vie, quand t'enlèves le protège-genou, tu te rends compte de genre, oh my god, par chance qu'il y a une petite ouate là pour amortir le choc. Je pense que c'est comme les commentaires positifs puis le support des gens, c'est ma petite ouate. Puis que, pas à cause du confinement, mais à cause de plusieurs réflexions que j'ai eues avant le confinement par rapport à genre ma carrière, ma relation avec mon public, ben mon relation avec les gens en fait en général, j'ai réalisé ça. Puis des fois, je lis des messages puis ça me rentre vraiment dedans. Tandis que dans le temps de la disque, j'étais tellement en crise. Puis dans d'autres crises après, que ça me faisait pas rien, mais je comprenais rien de ce qui se passait. Tandis que là, je prends le temps pour être comme, OK, là, c'est hot. Il y a genre Marie-Josée, elle habite à Boucherville, elle a 3 enfants, puis elle m'écrit pour me dire, genre, lâche pas. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les personnes plus âgées que moi. La fille m'a jamais répondu, mais en dessous de mon truc de mes poils sur Facebook, il y avait une madame de comme 75 ans qui était comme, bravo ma belle Safia, c'est très beau et je suis fière de toi. Puis j'ai écrit en privé, genre, avec mon compte, parce que j'étais genre, mais pour vrai, elle a effacé une couple de commentaires de merde dans ma tête, parce que j'étais genre, toi, tu me prove wrong, man. C'est parce que les gens qui m'insultent tout le temps, les personnes plus vieilles, puis là, de voir une femme plus vieille me dire bravo, ça m'a vraiment apaisé, tu sais, ça m'a fait vraiment du bien. J'étais comme, yes, sir, man, t'es vraiment fine.
Pourquoi tu penses que le monde se donne le droit de te critiquer, toi, constamment, puis ton image? Est-ce que tu penses que cette pression-là est mise également sur toutes les personnalités publiques féminisées, mais que comme ils cadrent plus dans le moule, ils sentent peut-être un peu moins, ou c'est vraiment toi, t'es le souffre-douleur? Ça ressemble à ça un peu de l'extérieur.
Oui, oui. Moi, je pense que je suis la souffre-douleur. Je pense que je suis comme le go-to. Tout ce que je fais, ça gosse le monde. Tu sais, comme mettons, le fait que j'étais déprimée aujourd'hui, là, parce que ce matin, quand je me suis levée, sortons les poubelles m'ont comme tagué dans une affaire parce que rit de moi qui essaie d'aller à l'université. Puis ça, ça m'a décalissé pour la journée. Je veux pas qu'ils pensent que toutes ces affaires-là, ça me décalisse ma personne, puis que je vais jamais me relever de ça. Mais ça me prouve pour moi que je suis vraiment genre le go-to pour taper dessus. Puis après ça, je pense qu'il y a vraiment une pression sur les... En fait, tout ce qui n'est pas un homme cisgenre, d'être excellent et parfait constamment.
En plus, je dis homme cisgenre, mais je veux dire comme homme cisgenre blanc aussi, là, dans le sens que je pense que peu importe si t'es pas on top of the chain, il y a des degrés de pression. Puis je pense que malheureusement, moi, je suis une personne qui est une grosse lesbienne à moitié arabe qui a pas son secondaire puis qui a du poil. Là. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui. Ben, la position qui fait en sorte que de la communauté féministe t'es perçue comme la parfaite féministe intersectionnelle, ça fait aussi que t'as beaucoup de points d'entrée pour te faire rentrer dedans par le monde. Ça prend déjà beaucoup de guts, je trouve, aussi, pour amener des œuvres aussi personnelles que ceux-là que tu fais, de les montrer devant le public. Mais toi, t'as tout le temps en plus à te soucier de ce que les gens vont trouver à redire sur le linge que tu portes au moment où tu lances la toune.
Oui, c'est complètement fou, ça. C'est fou, t'as raison. Des fois, je l'oublie même tellement que... À un moment donné, c'est tellement dur pour moi de savoir pourquoi je fais ce métier-là si, mine de rien, là, les gens qui m'haïssent, ils m'haïssent aussi parce que je fais de la musique. Ils ont jamais écouté ma musique, mais ils me traitent tout le temps d'artiste subventionné de tabarnak, que je fais de la musique dépressée, blablabla. C'est un gros mélange de gens me dire ma musique est pas désirée au Québec. Puis en plus, à chaque fois que je sors de la musique qui est semi-non désirée par le Québécois moyen... Je fais pas la musique parce que je veux que le monde désire ma musique. Mais c'est comme tous ces efforts que je mets dans... Pas faire le produit, mais le commercialiser. Mettons, faire des entrevues puis ces cochonneries-là. Dit-elle en répondant à des questions. « Oh non, Seigneur, est-ce que je m'exprime mal? » Mais tu sais, je voulais dire... Je veux pas donner d'exemple, mais tu comprends. Genre, faire 7 fois la même entrevue pour des médias que je m'en calisse pour parler de mon album, pour que finalement, quand il s'est rendu sur le site, la moitié des commentaires, c'est... maudite musique dépressive qui donne envie de se pendre, puis elle a les cheveux gras, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est fait que ma musique, puis mon apparence. Comme tu dis, c'est la musique full intime, genre, ça m'a pris full le temps de faire comme, OK, j'accepte de parler, mettons, de mon père, il me parle plus. Des fois, il y a des gens qui sont tellement méchants, mais c'est pas arrivé beaucoup, ça arrive genre, mettons, 10 fois depuis le début que j'en parle de mon père qui me parle plus, là, qu'il y a du monde qui l'utilise pour m'insulter, puis qui sont comme, no wonder que ton père, il te parle plus, ton père algérien qui t'a abandonné, genre,
oh my god!
Ah ouais, c'est des niveaux horribles de... En fait, c'est ça qui m'a décrissé. Quand il y a eu l'affaire de mes poils, je me faisais insulter par des madames puis des messieurs avec des « ça va bien aller » puis des arcs-en-ciel dans leur photo profil, genre. « Grosse salope, tu pues! » Puis j'étais comme, « Hey, l'apocalypse sanitaire aura pas arrêté ces gens-là. » Genre, legit, c'est pire, je pense. Ça les... C'est comme, OK, là, ils peuvent plus sortir, la vie coûte cher, là, ils perdent de l'argent, ils sont en tabarnak, puis c'est là, ça n'a même plus rapport avec moi. C'est juste comme, le souffle-douleur, le bouton sur lequel t'appuies pour libérer un peu de pression.
Oh ouais, ça va mal en crise, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller taper un peu sur sa fionolin,
peut-être. Pour vrai, oui. Genre, c'est comme, c'est bizarre, puis ça fait du bien aux gens, mais je sens...
Je trouve que t'es vraiment un exemple fun pour le monde qui cadre pas. Mais en même temps, c'est plate parce que tout ce monde-là qui s'attaque à toi, au final, il s'attaque à toute une génération de jeunes
oui.
qui cherchent, comme ils peuvent, un exemple quelque part de quelqu'un qui leur ressemble.
Je suis tellement d'accord. Le monde, ils m'écrivent avec leur compte, puis je vois c'est qui, je vois leurs enfants, je vois où est-ce qu'ils travaillent. Puis il y a plein de parents d'adolescents qui sont comme « Ah, tu m'écœures! » Tu m'écœures 500 fois plus que tous les autres qui m'écrivent puis qui sont genre des doudes que je m'en calisse, mais... Les parents d'adolescents, là, en fait, c'est juste qu'ils donnent aucune chance à leur adolescent ou à leur kid de juste... Ah, oh, ça m'écœure. C'est juste ça m'écœure. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ça me...
Mais c'est sûr qu'ils sont encore plus dégueulasses parce qu'ils sont en train de cracher sur, possiblement, leur propre enfant ado qui est pas game de leur faire son coming out parce que ce sont trop des mardes ou qui sera jamais...
Oui.
Qui seront jamais eux-mêmes avec leurs parents, tu sais.
Ça me décalisse, tu sais, genre... sur Twitter, cette estime de don pas marde, j'avais vu un gars qui m'avait écrit parce que j'avais réussi à me faire insulter la fois où est-ce que j'ai dit « Ah, arrêtez, les gens, il faut vraiment arrêter d'acheter des vêtements neufs, là. Il y a plein de linge, des friperies, genre, c'est important pour la planète. » Il y avait un gars qui m'avait écrit « Tu utilises plus de tissu, tu devrais perdre du poids, gros tas, je sais pas quoi. » Genre, un affaire vraiment un whack, genre, « Tu pollues plus vu que tu es grosse, on en fait toi-même. » Puis j'avais été checker. Puis c'était un prof de secondaire. J'ai écrit à sa commission scolaire, j'ai écrit à l'école. C'est comme, juste sachez que ce gars-là, il m'insulte sur les réseaux sociaux, puis il me traite de grosse, puis c'est lui qui forge les générations en dessous de nous autres gens. J'écris aux gens, là, juste vous savez que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui me traite de grosse torche depuis genre 2 ans, là, tu sais. Peut-être que ça se peut qu'il traite du monde dans son équipe de grosse torche parce qu'il est capable de le faire avec moi, fait que...
Ouais, c'est fou, ça me tentait même de finir l'entrevue avec ça. Là. Ça vaut la peine de signaler les commentaires et les publications violentes dans vie, puis d'envoyer des screenshots aux employeurs. J'ai une amie qui a commencé à faire ça.
Oui.
Notre amie commune. Si, genre, deux personnes décident de renvoyer quelqu'un parce qu'il envoie des messages de haine, ben tant mieux.
Tant mieux en crise, même. Genre, je souhaite pas aux gens de perdre leur job, mais le meilleur exemple de ma vie, c'est qu'il y a genre 2 ans, mais je me souviens pas. Encore une fois, il y a tellement de fois où est-ce que je me suis fait insulter. Là, sur mes poils, les gens de commentaires de merde, ils étaient mostly sur ma page. Mais il y a aussi des autres foyers où est-ce que, mettons, Huffington Post fait un article, il y a genre 300 commentaires, puis c'est juste la merde. TVA Nouvelle, même affaire. Puis là, je me souviens qu'il y a genre 2 ans, en dessous du truc de Huffington Post, je pense, il y avait une fille qui disait « Je l'ai déjà eue dans mon hôtel, elle est dégueulasse. Elle est hostile, là. Je le sais que c'est pas dégueulasse. » Puis ça m'a mis en tabarnak. Le monde, ils sont pas full intelligents quand ils font ces affaires-là, genre. Puis il était marqué dans quel hôtel elle était allée, puis j'étais vraiment allée pour vrai, tu sais. Fait que j'ai appelé, j'ai parlé au boss, puis j'ai dit au boss, genre, « Hey, moi, là, votre employé, là, elle écrit sur Internet que je suis dans votre hôtel puis que je suis dégueulasse. » Ce gars-là, il a pas trippé. Ben, il l'a renvoyé. Déjà là, tu sais, moi, je me sens... Ah ben c'est du coup, je me sens pas mal, quoi. Je me sentais mal sur le coup un peu, mais je me sens pas mal qu'elle ait plus de job, cette madame-là, parce qu'elle avait rien qui a fermé sa calice de gueule. Mm. Puis elle l'a pas fermé sa calice de gueule. Fait que là, too bad for her. Elle a plus de job à cet hôtel-là. Tu sais, c'est trash, mais...
Prenons les moyens qu'on peut, puis... Moi, aviser les employeurs, c'est un moyen que je trouve bien cool, quand même.
Moi, too, man. Je l'approuve.
Entre ton titre de porte-parole pour la journée de la visibilité lesbienne, de mentor au camp rock pour les jeunes de genre non-binaire ou féminin, ta participation au cabaret Mes Poils, puis tes réponses parfaitement formulées que t'as pas eu le choix de donner suite à tout le harcèlement médiatique que tu vis, mériterais clairement un diplôme honoris causa. Moi, je te le donne en enseignement pour toutes les fois que tu confrontes le grand public. Mais je me demandais... pourquoi tu le fais, puis comment tu trouves l'énergie de continuer à te battre pour faire avancer ces causes-là?
J'ai l'impression que c'est même plus genre lié à mon statut d'artiste. C'est vraiment comme lié à mon statut de personne dans ma tête. La musique, puis ma première controverse, ça m'a vraiment ouvert vers le grand public. Mon chemin personnel avance en même temps que mes multiples controverses, dans le sens où est-ce que je suis encore plus tannée pour ma condition à moi, mais pour toute la condition de tout le monde, que c'est pas facile. T'sais. Ça me fait plaisir, je me trouve chanceuse de pouvoir faire ça, de pouvoir... me battre. J'ai vraiment aucun plan d'arrêter, mais genre aucun, parce que je trouve que j'ai vraiment chanceuse de pouvoir le faire. Pas juste pour moi. En fait, pour moi, pas que ça me donne rien, mais tu sais, je veux dire, c'est déjà... je sais pas comment expliquer. Je reçois déjà de la merde, puis je recevrai pas moins de merde à cause que je parle plus, tu comprends? Fait que tant qu'à, je vais juste le faire. Même si je reste silencieuse, je continue à recevoir de la merde, tu sais.
T'es dans merde anyway, fait que aussi bien faire de quoi de positif pour que le reste du monde le soit moins, genre.
Exactement.
Ben, bravo, pis c'est trash. Puis créativement, mettons, artistiquement, est-ce que t'es full motivé encore, genre? Est-ce que ça te donne le goût de continuer puis de montrer puis de dire ce que t'as à dire pour le monde qui l'écoute?
Oui, ça prend tellement d'énergie de se faire chier. Fait qu'en ce moment, moyen, là, genre, moi, le confinement, ça me donne vraiment pas envie de créer, là. Genre, je sais pas pour toi, mais moi, je suis comme... pour moi, c'est comme vraiment tough. Si je réussis à faire de quoi de vraiment nice que j'aime, je suis vraiment contente. Mais si je réussis pas, ça me bouffe. Si j'arrive pas, puis que j'avais l'impression que je pouvais, je suis vraiment déçue. Mais j'avais plein de projets. T'sais, j'ai écrit 1 ou 2 tunes. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas écrit de tunes. C'est parce que je suis fucking longue pour une création. Puis j'ai un projet aussi de musique expérimentale que j'aimerais ça sortir. J'ai tout ça qui attend, mais je veux dire, il y a rien qui me fait... capoter en ce moment dans la création. J'en parle le coloriage. Ça fait full du bien. Genre, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec mon métier, tu sais. Puis après, je sais qu'il faut complètement séparer, genre, la création puis le métier, là. Mais je trouve ça tough en ce moment. Je pourrais, genre, faire ça, sauf que, comme, quand est-ce que je vais pouvoir jouer ça live dans un bar, genre, jamais, là, ou, c'est après la pandémie, les albums, ils vont être en retard. Il y a plein de monde qui vont pouvoir, comme, postponer leur sortie d'album. C'est comme un clusterfuck. Fait que je tourne autour en ce moment. J'essaie de m'inscrire à l'université, j'écoute des séries de marbre, je tricote.
J'ai mentionné vite fait aussi que t'étais porte-parole de la journée de la visibilité lesbienne, mais c'est bientôt, ça te tente?
C'est la deuxième année qu'ils me demandent d'être porte-parole. Après ça, je me suis imaginée qu'ils allaient me le demander genre pendant 20 ans, puis j'étais vraiment contente. Anyway, moi, je suis tout à fait ouverte à être toute la vie leur porte-parole. L'année passée, c'était ma première fois que j'y allais. C'était fucking cool. J'avais fait un petit speech. Je m'en souviens pas de mon petit speech, mais il me semble que ça s'était bien passé. Si je me souviens bien, ça avait fait un tollé j'avais fait un petit tweet qui disait que j'étais porte-parole, puis je m'étais encore fait full insulter, puis je m'étais pognée avec du monde sur Twitter, puis j'avais reçu des messages. J'avais fait un speech par rapport à ça. Là, cette année, j'ai pas encore reçu une marbre. Je trouve que c'est tellement une belle journée. C'est une journée, en plus, qui a été inventée à Montréal, qui est devenue une journée mondiale, je pense. C'était pas la même date, là, mais je sais qu'en France, ils l'ont fêté il y a genre une semaine puis, ou deux. Puis qu'en Europe, c'était ça. Mais c'était comme, c'est pas genre comme la journée contre l'homophobie où est-ce que tout le monde est au courant que ça existe. Puis ben, cette année, je joue de façon virtuelle et j'assisterai de façon virtuelle. Ah, c'est que c'est fou cette histoire-là, c'est que j'avais rencontré du monde fucking nice. Bon, je me suis fait des amis qui sont restés mes amis après. Mais j'avais rencontré genre des vieilles gouines, puis qui m'avaient invité à un dîner culturel le mardi au Café Lézard. Au début, c'était fucking cool. Finalement, c'était des turfs. Genre, ils étaient full anti-trans, genre, puis j'étais comme, what the fuck? J'étais comme des féministes, genre vraiment radicales des années 70 qui étaient anti-trans. Qui disait des affaires horribles, puis là, moi, j'ai pogné une heure, mais tu sais, parce que j'adore débattre, mais moi, genre, quand je débat, je veux pas débattre pour amener mon idée. Tu sais, mon but, c'est pas que les gens changent d'opinion, là, c'est que moi, je sois shaky dans mes valeurs, puis que ce que je pense soit plus solide ou moins solide. À un moment donné, dans le Café Lézard, j'avais pogné une heure, tu sais, c'était comme, c'était rendu trop loin, c'était des affaires vulgaires, même, puis ça m'avait vraiment décrissé. J'ai foulard, sérieux. Puis c'était hot parce que j'avais assisté à une conférence. Ça me fait quand même choquer parce qu'il n'y avait pas tant de jeunes. Justement, c'était les vieilles gouines qui expliquaient leur coming out. Puis c'était genre full beau. C'était vraiment un beau moment. Tu sais, même si c'est des turfs, je veux dire, il y a des belles affaires qui ont à dire. T'sais. C'était vraiment un beau moment. T'sais. Fait que j'avais full aimé ça parce qu'il y a cette espèce de pont de génération qui est dur à faire le lien entre les deux. Fait que des fois, il faut que tu fasses comme des concessions ou pas. T'sais. Fait que je sais pas, j'ai pas encore décidé si je faisais des concessions avec. Les turfs. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'adore les lesbiennes, puis que je suis fière d'être lesbienne, puis que je suis vraiment contente qu'ils m'aient redemandé d'être porte-parole de la journée de la visibilité queen.
Merci beaucoup d'avoir jasé avec moi ce matin.
Ben non, mais merci à toi. Encore une fois, désolée du 2 heures de retard dû à.
Mais je le dirai pas parce qu'on n'a pas le droit, I guess. On a juste le droit de parler contre toi, mais on n'a pas le droit de parler contre les radios commerciales. Faut faire attention.
Oui!
Comme d'habitude, je vais mettre les liens vers la musique de Safia, que je vous encourage fortement à aller écouter parce que c'est bon anti-péché. Je vais mettre les liens aussi vers la journée de la visibilité lesbienne et le cabaret Mes Poils, deux événements qui vont se tenir en ligne et dans lesquels Safia performe. Je vais mettre le lien vers le Rock Camp for Girls parce que c'est vraiment intéressant comme initiative. Puis sûrement d'autres liens pertinents que j'oublie en ce moment. Il y en a sûrement des tonnes. Fait que je vous invite à consulter tout ça, puis à vous atteler à la tâche de signalage de commentaires violents. Je vous jure qu'il y a quand même un malin plaisir à prendre à faire ça. Alors, on se laisse sur Lesbian Breakup Song, qui est probablement ma chanson préférée de Safia Nolin, en duo avec La Force, et que je vous encourage à aller voir le clip parce qu'il a été fait par l'équipe de The Womanhood Project de notre invitée Cassandra Cachero d'un épisode précédent. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez-y, gang! Bonne écoute!
suffocating me and all my friends. I'm tired of this shit. I will find a way for this to sink in.
Oh my God, Laurie, quelle entrevue décollissante et merveilleuse. Bravo. Et merci à Safia pour ça. C'était vraiment capoté.
On a plein de matériel pour faire des bonnes quotes de promo.
À vous. Et je trouve que ça se rattache bien avec qu'est-ce que Camille a parlé dans notre entrevue, parce que, tu sais, elle a parlé du fait qu'ils se font souvent dire à mes poils que, tu sais, c'est niaiseux comme cause, puis qu'on ne devrait pas se battre pour les poils, parce que c'est juste des poils, mais comme, je trouve que ça... Le fait que Safia, tu sais, c'est pas juste par rapport aux poils, toute ce qu'elle reçoit, mais elle reçoit beaucoup comme de haine par rapport au fait qu'elle rentre pas dans un moule, finalement, tu sais, féminin ou même juste de personne humaine. En tout cas, toutes les personnes qui disent que c'est des combats futiles, juste écoutez qu'est-ce que vit Safia, je trouve que ça peut vraiment... Ça réduit à néant cet argument-là.
Le fait de cracher sur Safia de même, les gens, je ne sais pas à quel point ils se rendent compte, mais ils sont vraiment en train de cracher aussi sur genre toute la génération à venir. Mm. Dans le sens où insulter une lesbienne parce qu'elle est lesbienne fait directement en sorte que ton enfant ou l'enfant de ton ami ou de ton voisin qui est incertain face à son identité de genre ou son orientation sexuelle va genre tout faire pour cacher ces questionnements-là puis repousser le moment où il ou elle ou elle va finalement en parler ouvertement.
Mais oui.
Parce que, tu sais, l'idée même du coming out, c'est vraiment weird, là, pour moi, parce que tu devrais pas avoir à cacher, quitter pour un jour, finir par l'avouer au monde autour de toi en espérant qu'il continue de t'aimer, peut-être. C'est ridicule, mais ce monde-là, il donne raison à cette norme-là. Puis toutes les années que les jeunes LGBTQI2A+, des générations avant moi, puis même de la mienne, même moi, mettons, à un certain degré, ont passé dans le doute puis dans la honte, ben à force de cracher sur des modèles différents comme Safia, on continue de les garder dans cette honte-là, puis de faire en sorte que c'est la norme, puis ça fait chier.
Oui, je trouvais ça vraiment intéressant, toute la gestion dont tu parlais, d'appeler des gérants, puis de signaler des commentaires, etc., qu'elle fait, mais tu sais, elle pourrait tellement faire d'autres choses pendant ce temps-là si elle abandonnait, mais c'est malade qu'elle abandonne pas, je trouve. C'est vraiment, vraiment courageux.
Vraiment. Puis c'est fou parce que le fait qu'on parle aux gens juste de ça, mettons qu'on parle à Safia juste de son apparence, c'est ridicule parce qu'en plus, personne n'est prêt à écouter les informations qui vont venir ou les explications, tu sais, dans les médias de masse. Fait que c'est ridicule, vous lui parlez de quelque chose, vous ne voulez même pas entendre la réponse, mais Chris parlait donc de sa musique, c'est bon, tu sais, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'elle est reconnue, en tout cas.
Ce sera la conclusion de cet épisode, mon Dieu, haut en rebondissement.
C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou Pantoute. Un milliard de merci à toutes avec un gros E pour leur participation.
Merci Laurie Perron pour les co-animations et les belles discussions.
Ça fait plaisir. Merci Alex, Sandra Turgeon de partager tes réflexions, tes idées puis ton projet de podcast avec moi.
Merci à Camille Paré-Poirier. Toutes les infos et les liens vers l'événement Mes poils et le cabaret du 31 mai vont être dans les notes de l'épisode. Merci à Safia Nolin. On va mettre tous les liens aussi vers ses projets en cours dans les notes de l'épisode. Safia participe d'ailleurs au cabaret Mes poils du 31 mai qui se tient cette année sur Facebook à 20h le 31 mai. Manquez pas ça.
Venez célébrer ma fête dans ce cabaret-là. J'ai oublié de vous
dire.
C'est
le 31, ta fête?
C'est le 31. C'est ma fête. Allez. Au cabaret Mes poils. Soyez là pour moi, juste pour moi. OK.
Soyez à la fête à Laurie. Merci Laurie Perron et François Forcier pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Merci à vous d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou Pantoute.
Good evening, friends and comrades. Welcome back to Amandla Radio here at CQT 90.3 FM Montreal. And tonight we have what, Gwen, on our agenda?
Well, actually, we are devoting the entire hour to commemorating the Rabaa massacre in Egypt, which occurred on August 14th, 2013, when the army stormed the encampment in Rabaa Square and killed more than 1,000 peaceful protesters. So today, we'll be reflecting on this and commemorating it, a very dark turning point during the Arab Spring, with interviews with three guests: Mohammed Dawood, a film producer who was present that day and is now putting the finishing touches on a documentary about it; Mohammed Sharif Kamel, who is an activist, political analyst, and member of the Egyptian-Canadian Coalition for Democracy; and Asma Ali